Bergerac du Tarn, voici la chronique permaculturelle.
Daniel Vivas, du Jardin des Possibles, à Verfeil-sur-Seille.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du design en permaculture. Que veut dire ce mot design, tant utilisé dans la permaculture et indissociable de celle-ci? Bref, qu'est-ce que c'est en substance le design? Eh bien, c'est, pourrait-on dire, quelque chose qui se divise en deux grandes parties. Il y a premièrement les principes de design, qui se basent sur les valeurs éthiques de la permaculture, et très souvent sur du bon sens, et deuxièmement, la boîte à outils, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui permet de mettre en œuvre un design. Principes et boîte à outils sont indissociables et permettent ainsi de concevoir, d'organiser, d'agencer et de planifier toutes sortes de lieux. Terrains agricoles, écolieux, jardins urbains, jardins partagés, etc. Ou toutes sortes de structures sociales, une association, une communauté, des habitants d'un quartier, etc. Le design, donc, se base sur une approche systémique, c'est-à-dire qui prend en compte la globalité de l'écosystème que l'on veut mettre en place. Alors, ces principes de design, quels sont-ils? Je ne vais pas tous les citer ici, la liste serait bien longue. Ils se basent sur les principes éthiques dont nous avons vu lors d'une précédente émission qu'ils sont les piliers fondateurs de la permaculture. Le soin à la terre, le soin des personnes, le partage équitable des ressources. Et si l'on s'en réfère à l'aspect purement agricole, c'est-à-dire à l'aménagement d'espaces comestibles, il y a le principe de non-travail du sol. Aucun labour, aucun sarclage, aucun bêchage. Il y a la non-utilisation de fertilisants, qu'ils soient de synthèse ou autorisés par l'agriculture biologique. D'aucun biocide. Il faut savoir que même dans l'agriculture biologique, malheureusement, on autorise l'utilisation de biocides, dont le plus connu, la bouillie bordelaise, fongicide dont personnellement je trouve que c'est un vrai poison, puisque elle contient excessivement du soufre et ne fait aucune distinction, le pourrait-elle d'ailleurs, entre micro-organismes favorables ou défavorables aux cultures. Il y a un autre principe de design, un principe venant de Bill Mollison, l'un des moins connus, venant de sa part, qui consiste à dire que tout le monde jardine. Tout le monde jardine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui s'intéressent à la vie des sols et comment fonctionne un sol fertile savent très bien cela. La faune et la flore du sol participent de manière prépondérante à sa fertilisation naturelle. Tous ces organismes travaillent le sol, et le plus connu, c'est le ver de terre, donc qui est un inlassable jardinier. Autre principe, c'est celui qui consiste à dire que c'est bien la somme de tous les éléments d'un système permacole, pris dans leur ensemble, qui participe à la productivité et à l'efficacité du système. Autrement dit, plus un agro-écosystème est diversifié dans ce qu'il produit, plus il est efficace en termes de rendement. Donc ce n'est pas un principe défendu uniquement par la permaculture. L'agroécologie ou certaines branches de l'agriculture biologique disent à peu près la même chose. On est bien en opposition à ce que fait le modèle productif d'une monoculture qui continue à affirmer qu'elle est efficace, productive, etc. Alors qu'on se rend bien compte de plus en plus que c'est tout le contraire qui arrive. Alors, il y a évidemment d'autres principes de design, comme par exemple, tout ce qui est prélevé de la terre doit lui être rendu, au quintuple, ajoute d'ailleurs Bill Mollison. Il y a ceux érigés par David Goldgren, observer et interagir, commencer avec patience et à petite échelle, et bien d'autres encore. Encore une fois, on pourra remarquer que certains de ces principes ne sont pas propres à la permaculture. Alors, une fois bien imprégné d'une bonne partie de ces principes, on est fin prêt pour commencer à réaliser un design en permaculture. Et là, on a besoin effectivement de la boîte à outils dont je parlais au début, qui est l'ensemble de techniques permettant de réaliser ce design. Comme pour les principes, je ne vais pas toutes les énumérer ici, ce serait encore une fois beaucoup trop long, mais je vais vous en citer deux qui me paraissent essentielles dans une première approche du design. Alors la première, c'est la plus simple, qui paraît la plus évidente, mais qu'on ne sait plus faire. Cela se comprend d'ailleurs par le fait que dans notre vie moderne, l'urgence prévaut sur prendre le temps et la patience. Donc c'est l'observation, tout bêtement. Effectivement, sur un lieu, on observe, on repère, on note, on relève l'orientation du terrain, la végétation, les sous-bois, l'eau, son parcours sur le terrain, les pentes, les microclimats, les limites, les accès, etc., etc. L'observation est donc essentielle et primordiale et dans le cycle du design, cet outil revient sans cesse car il permet aussi, une fois le système en place, de corriger, de changer, de rectifier certains éléments que l'on veut plus efficaces. Une zone de culture, par exemple, dont on ne s'est pas rendu compte au départ parce qu'observé au début de l'été, qu'elle était fortement ombragée à l'intersaison, c'est-à-dire au début du printemps ou à l'automne, et qui va déclencher une interaction, un changement de place, des cultures, ou alors même des cultures plus adaptées aux situations de mi-ombrage. Le deuxième outil que je donne en exemple, tout aussi essentiel, c'est l'analyse des besoins, des éléments et leur interaction. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est analyser de quoi a besoin mon élément en entrée, donc ce qu'on appelle les inputs, pour fonctionner, et qu'est-ce qu'il produit en sortie, en output. En prenant l'ensemble des éléments de mon système permacole, ce que produisent certains éléments en sortie vont devenir les éléments en entrée pour le fonctionnement d'autres éléments. En écologie, on appelle ça le fonctionnement en cycle fermé, où finalement rien ne se perd. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer cela. Pas celui des poules, très connu et souvent cité en permaculture, mais celui d'une butte de culture, sujet que je connais bien. De quoi a besoin ma butte pour fonctionner et pour produire des légumes ? Elle a besoin de terre, qui peut être la terre provenant du lieu d'implantation ou de la terre apportée. Elle peut avoir besoin de bambou, si on la fait avec des supports latéraux provenant de notre bambouserie, elle-même proche d'une mare et servant de coupe-vent à une végétation sensible, comme certains fruitiers par exemple. Elle peut avoir besoin de matière organique animale, du fumier, produit par mes trois ânes que j'ai en pâture dans mon pré, et qui, mélangé à la paille d'un champ voisin de culture de blé, produit un excellent fumier donc. Elle a aussi besoin de mulch, c'est-à-dire cette couverture végétale, en toute dernière couche, qui va retenir l'humidité, participer à la fertilisation de mon sol, et qui provient directement de la tonte de ma prairie ou de la taille de mes haies que j'ai ensuite broyées. Et qui, elle-même, abrite toute une faune utile à ma butte et qui produit de l'ombre à une certaine heure de la journée, utile à certains légumes qui ont besoin de plus de fraîcheur. Donc on voit bien ici, par cette illustration simple, que les éléments en sortie d'un système sont la ressource en entrée pour d'autres éléments. Voilà donc ici quelques exemples de principes et d'outils de design que je vous ai exposés et dont j'espère vous aurez compris toute leur utilité et tout leur sens dans un système en permaculture. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques permacoles.